Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Saluton, amis auditeurs. Pour cette 20e émission, nous avons tout de suite rendez-vous avec Ange Matteo, qui va vous parler d'Antoni Grabowski, le premier véritable interlocuteur du créateur de l'espéranto, Louis-Lazare Zamenhof.
Nous poursuivons aujourd'hui notre voyage biographique autour des personnalités qui sont liées à l'espéranto. Vous vous souvenez peut-être de Louis-Lazare Ludwig Zamenhof, le créateur de cette langue internationale dont je vous avais conté l'incroyable et émouvante histoire. Nous sommes peu après l'an 1887. Zamenhof vient de publier la Unua Libro, c'est-à-dire le premier livre qui explique les bases de l'espéranto, édité en plusieurs langues, dont le polonais. Le Doctoro Esperanto, le docteur qui espère, comme il signa cet ouvrage, n'a eu que peu de soutien dans ce projet. Son père n'y croyait pas. Seule son épouse le soutenait et son beau-père alla même jusqu'à faire éditer à ses frais la brochure. Toute sa vie est tendue vers ce seul but, apporter une solution au problème des langues dans le monde afin d'améliorer la communication et la compréhension entre les peuples. Pour l'instant, il a échangé seulement quelques propos avec son épouse Clara. Or, ce jour-là, un homme dont nous allons parler plus longuement frappe à la porte des jeunes époux Zamenhof. Il dit s'appeler Antoni Grabowski et souhaiterait rencontrer l'auteur de la méthode de la lingvo internacia, c'est-à-dire la langue internationale. Ĉu eble vi estas doktoro Esperanto? Êtes-vous bien le docteur Esperanto? Dit-il. Ludwig Zamenhof se demande s'il ne rêve pas. L'inconnu ne vient-il pas de s'exprimer dans la langue qu'il a patiemment élaborée pendant des années? L'émotion l'étreint. C'est une heure décisive qu'il est en train de vivre. L'heure où les premiers propos sont échangés en espéranto entre deux inconnus. L'heure où du statut de langue écrite, elle étreint enfin ses premiers pas de langue orale et d'échange. Après cette première rencontre, tout fut différent. L'espéranto était né et était devenu vivant. Mais qui est donc cet Antoni Grabowski qui conversa le premier avec le créateur de l'espéranto? Il est polonais, ingénieur chimiste de profession. Grand polyglotte, il est né en 1857. Il vécut surtout à Varsovie, où il mourut en 1921. Il connaissait une trentaine de langues et participa activement au mouvement espérantiste. À partir de 1904, il fut président de Varsovia Esperanto, puis en 1908 de la Pola Esperanto Asocio, l'association polonaise d'espéranto. Il resta l'ami fidèle de Zamenhof et travailla sans relâche pour l'espéranto jusqu'à sa mort brutale. Ironie du destin, il mourut d'une crise cardiaque devant la vitrine d'une librairie espérantiste. On lui doit la rédaction du grand dictionnaire polonais espéranto-espéranto-polonais. Le plus important est cependant son travail de traduction d'œuvres poétiques. Son œuvre majeure est l'anthologie de la poésie internationale Parnasso de Popoloi et plus spécialement Signoro Tadeo, Monsieur Tadé, Messire Tadé ou Pan Tadeusz en polonais, qui est un poème épique du poète et écrivain polonais Adam Mickiewicz, dont il a fait une traduction très fidèle. Cette dernière est une des œuvres les plus prenantes de la littérature traduite en espéranto, qui a fait de Grabowski le père de la poésie en espéranto. Par ce livre, Grabowski est celui qui fit évoluer la langue poétique. Il ne craignait pas l'introduction de nouveaux mots, dont un certain nombre devinrent des mots officiellement reconnus. Quelques-unes de ses inventions ont été utilisées par des poètes espérantistes. Par exemple, la transformation directe de noms ou d'adjectifs en verbes, l'utilisation de la terminaison « est » pour utiliser les noms comme adverbes, etc. Il savait trouver les rythmes avec aisance et maîtriser parfaitement la technique de la versification. C'est de lui, par exemple, que vient le mot « adacismo », qui caractérise des rimes faciles basées sur un même suffixe. La critique la plus sévère dira qu'il était plus un artiste de la langue qu'un poète, mais on ne peut qu'admirer certains passages de Signoro Tadeo, qui feront toujours partie des plus belles pages de la poésie traduite en espéranto. Ses œuvres écrites directement en espéranto sont peu nombreuses. On peut cependant mentionner Tagigio, qu'on peut traduire par « point du jour », qui est quasiment un deuxième hymne espérantiste, et le touchant « Reveno del filo », le retour du fils. Le père de la poésie en espéranto resta jusqu'au bout l'ami fidèle de Zamenhof, qu'il visitait régulièrement, pour lire de nouveaux chapitres de sa traduction de Messire Thaddée, son œuvre magistrale. Sa déclamation enthousiaste de son harmonieuse traduction réjouissait le docteur Zamenhof, car dans la bouche de Grabowski, l'espéranto vivait et brillait vraiment. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs, pour partir à la découverte de nouvelles personnalités espérantistes.
Merci Ange, nous te retrouverons bien sûr lors de la prochaine émission. Mais c'est maintenant l'heure de notre cours d'espéranto. Nous commençons aujourd'hui la sixième leçon du Junul Curso, le cours pour les jeunes, et nous sommes sur la terrasse de Dorothée, en plein air, parce qu'il fait beau, avec Dorothée bien sûr, avec de Saint-Antoine-de-Broche, avec une nouvelle élève, Céline, de Saint-Antoine-de-Broche également. Bonjour Dorothée.
Bonjour Claude.
Bonjour Céline.
Bonjour Claude.
Voilà, donc Céline est en deuxième année. Elle a fait la première année à Trélissac avec Jacques Ravary.
C'est ça.
Très bien. Voilà. Allez, on attaque ?
On attaque.
C'est parti.
Alors, donc, Dorothée pour lire.
La Bildo de Carlo.
Le livre de Carlo.
Bildo. Alors, ne gravas. Bildo, c'est une image.
Une image.
Un livre se dit libro. Très bien. Ne gravas. Alors, je vais continuer peut-être, comme ça, puisque nous ne sommes que trois aujourd'hui, je vais intervenir. Comme ça, nous serons un nombre impair. Et
voilà.
Donc, les rôles vont tourner. La bracoy estas tre longaj. Sed la cruroi estas mallongai.
Les bras sont très longs, mais les jambes sont courtes.
Très bien. Cruroi, c'est les jambes. Et donc mallongai, c'est le contraire de longai. Donc les jambes sont courtes. Très bonne.
La piedoi estas malgrandai.
Oui. Alors, là, attention, si on dit piedoi, on va mettre P-J-E-D-O-J, d'accord ? Et en fait, le J, on rappelle que c'est un I bref. Mais là, c'est bien un I qu'il faut dire, donc on va dire piedoi. Et en mettant l'accent tonique uniquement sur la lettre E, piedoi.
Piedoi.
Bonne. Donc, la piedoi estas malgrandai, les pieds sont petits.
En la mano estas kvin fingroi.
Dans la main et cinq doigts. Sont cinq doigts.
Oui.
Il y a cinq doigts.
Oh, très là bien. Là. Non, c'est bon. Le verbe être, on peut estas, on peut le traduire par son au pluriel. C'est le verbe être. Mais on peut dire aussi il y a. Donc en français, nous préférons dire plutôt dans la main il y a cinq doigts. Fingro, pensez à l'anglais finger pour doigt. Kvin fingroi, donc cinq doigts. En la capo estas haroi, du oreloi, du oculoi, du vangoi, la naso, la bucho, la mentono, cotopo. Alors, on va reprendre ça doucement pour nos amis auditeurs. En la capo.
Dans la tête.
Très bien. Estas haroi.
Il y a les cheveux.
Eh oui, haroi, on pense à l'anglais hair, donc les cheveux, il y a les cheveux. Du oreloi.
Deux oreilles.
Très bien. Du oculoi.
Deux yeux.
Yes. Du vangoi.
Deux joues.
Très bien. Vangoi, par exemple, nous avons vangofrapo. C'est une gifle.
Une gifle.
Voilà, frapper une joue, ça s'appelle en français une gifle, mais van gogh frappo, c'est un mot composé en espéranto. La naso.
Le nez.
Oui. La bucho.
La bouche.
Yes. La mentono.
Le menton.
Très bien. Et puis ces trois petites lettres que l'on prononce en espéranto, kotopo, pour dire...
Je ne sais pas.
Alors, pas pour dire je ne sais pas, Dorothée. Pour dire etc.
Ah d'accord.
Et en fait, kotopo, c'est l'abréviation de kai tiel plu.
Kai tiel plu.
Voilà, kai c'est et, tiel ainsi, et plu c'est une action qui continue, donc et ainsi de suite.
Oui.
En français on dit souvent etc. etc.
D'accord.
Je prenais l'accent espéranto pour parler en français.
La sacco estas ĉe la dorso de Carlo.
Le sac est sur le dos de Carlo.
Voilà.
Oui, très bien, sur le dos de Carlo. Donc l'espéranto dit che, ça s'écrit c chapeau et che. Che, ça marque une proximité immédiate. Par exemple, esti che la pordo, être à la porte. Ici, c'est effectivement sur le dos. On aurait très bien pu dire aussi la sacco estas sur la dorso de Carlo. Tiu knabino estas bona camaradino. Je reprends. Tiu knabino estas bona camaradino. Dorothée, pour traduire. Tiu knabino.
Le garçon, ton garçon, ce garçon.
Oui, voilà.
Ce garçon.
Et plutôt knabino, ne knabo, c'est knabino. Le féminin, ino.
Donc, fille.
Eh oui, cette fille, tiu
cette
knabino.
Cette fille est une bonne camarade.
Très bien. Donc, knabino est le féminin de knabo, donc fille, et le féminin de garçon, bien sûr, en français. Camarado, ce serait un camarade, mais puisqu'on a affaire à une fille, camaradino, le suffixe ino féminisant le mot camarado. Et j'insiste aussi sur le tiu. Ce mot est un corrélatif qui veut dire ce, c'est un démonstratif, donc cette fille. Tiu tout seul, ça voudrait dire celle-ci.
La haroi de tiu knabino estas blondai.
D'accord, mais attention, haroi, qu'on entende bien le H. Vous savez qu'en espéranto, toute lettre qui est inscrite, qui est écrite, doit être prononcée, et vice-versa, un son, une lettre, un son. Donc la haroi de tiu knabino estas blondai. Les cheveux de cette fille sont blonds.
Tio estas floro.
Alors, tio estas floro, cela est une fleur.
Tio floro estas tulipo.
Bonne. Tio estas floro signifie cela est une fleur. Maintenant, si l'on veut préciser, la suite de la phrase nous dit tio floro, cette fleur. Parmi les fleurs, cette fleur, tiu floro, ou bien simplement tiu tout seul, tiu estas tulipo, celle-ci est une tulipe. Donc avec tiu, on va dire cela, avec tiu, nous allons extraire un élément d'un ensemble, comme on dit, c'est-à-dire dans l'ensemble des fleurs, celle-ci se dit tiu.
Tiui cantastinoi cantas belle.
Tiui cantistinoi, yes, cantas belle. Alors, traduisons peut-être cette première partie.
Tous les chanteurs chantent joliment.
Alors, pas tous, ça serait chiui.
Oui, ces chanteurs.
Voilà, c'est encore un démonstratif, cette fois-ci au pluriel. Tiui cantistinoi, ces chanteuses cantistinoi.
Ah oui, en plus.
N'est grave. Donc, ces chanteuses chantent joliment. De manière belle, pour traduire belle. Ili cantas kiel birdoi.
Ils chantent de la manière des oiseaux.
Oui, ou encore
comme
plus.
Comme des oiseaux.
Comme des oiseaux. Comme des oiseaux. Mais effectivement, kiel, nous l'avons déjà vu, c'est un corrélatif de manière. Kiel, on peut le traduire très souvent par comme, mais aussi également par à la manière de. Donc, ils chantent à la manière des oiseaux, ou ils chantent comme des oiseaux. Eux aussi chantent comme des oiseaux. Écoutez le groupe russe Orai Kantoi.
Tentare tranquillo iradis cro codilo sin maschis tiu besto en nia verda vesto nec li, nec ci nenio esti gi. Nec li, nec si, nenio estis gi. Parolis crocodilo al granda fish simile, cae cantis crocodilo, kiel automobilo,
kli, ne kli, ne nio estis gi.
Li curas tre rapide. Li curas kiel leporo.
Yes, li curas tre rapide, Céline.
Il court très rapidement.
Oui, et maintenant, li curas kiel leporo.
Il court à la manière d'un lapin.
D'un lièvre.
D'un lièvre.
ne gravas. Ils ont tous les deux des grandes oreilles.
Et des grandes pattes.
Oui. Leporo, c'est un lièvre qui court plus vite que le lapin.
Hein. Oui, oui.
Alors, qui est leporo, donc, à la manière d'un lièvre ou comme un lièvre. Un lapin, ça se dit cuniclo.
Ah oui.
Cuniclo.
Cuniclo. Ciu Carlo venas?
Est-ce que Carlo vient?
Oui, ou est-ce que Charles vient? Carlo ou Charles, comme vous voudrez. On n'est pas obligé de traduire le prénom.
Ne li restas ce Nico. En la domo de Nico.
Voilà. Non, il reste chez Nico. Autre façon de le dire, dans la maison de Nico. Che Nico ou en la domo, dans la maison de Nico.
Sed Johannino iras al Amsterdamo.
Yes, alors Johannino, le J, lorsqu'il a un chapeau, c'est bien le J français.
Johannino.
Voilà, mais ici, il n'y a pas le chapeau, donc sed Johannino iras al Amsterdamo.
Mais Jeanne va à Amsterdam.
Très bien, va à Amsterdam. Qui est li estas?
Qui est-ce?
Né?
Non.
Autre corrélatif?
Non, non.
Qui est li estas?
Qu'est-ce que c'est?
Ne quio, qui est? Adverbe de lieu.
Ah.
Corrélatif, comme on dit en espéranto. Corrélatif de lieu. Qui est?
Donc, où?
Très bien. Où est-il?
Où est-il?
Qui est li estas?
Li alvenas. Li estas che la pordo.
Yes. Il arrive, li alvenas, alors veni, le verbe venir, alveni, c'est le verbe arriver. Il arrive, li estas ce la pordo, il est à la porte. Ce qui signifie, il est près de la porte, il s'apprête à frapper ou à sonner, donc il est à proximité immédiate de la porte. Pour traduire le ce, s'échappo est, comme on l'a dit tout à l'heure.
Qui estas la chlosilo?
Schlossilo.
Schlossilo.
Yes.
Alors, où est la... je dirais la clé.
Très bien, oui, oui, très bien. Qui est ça, la schlossilo? Donc, qui est? Nous venons de le voir corrélatif de lieu. Où se trouve, où est la clé? Schlossilo, nous reconnaissons la terminaison ilo, le suffixe qui désigne un outil. Et schlossi veut dire fermer à clé. Donc, schlossilo, c'est l'outil qui permet de fermer à clé, donc tout simplement la clé. Qui est-ce la schlossilo? Où est la clé?
La schlossilo est-ce tillé. Duncan.
La clé est ici. Merci. Tillé, nouveau corrélatif, mais cette fois-ci corrélatif de lieu, mais démonstratif. La clé est ici, ou la clé est là. Comment distinguer ici et là? Pour préciser une proximité immédiate, on peut ajouter tie chi ou chi tie. Chi, ça s'écrit c chapeau i. Donc, nous traduirons la schlossilo estas tie par la clé est là.
La hundo estas ĉe la tablo inter Johannino kaj Nico.
Inter, yes. Inter. Alors, la hundo estas ĉe la tablo, Céline.
Le chien est à côté de la table.
Inter Johannino kaj Nico.
Entre Jeanne et Nico.
Oui, Nico pour Nicolas, bien sûr. Alors, tu as dit à proximité de la table, c'est
j'ai
ça?
J'ai dit à côté,
à côté, oui, oui, à côté. Alors, chez la table, on peut traduire tout simplement par à table, comme on dit en français. À côté de la table, précisément, on aurait écrit à pud la table. Mais c'est... être, lorsqu'on est à table, on est effectivement à côté de la table. Donc là, il n'y a pas une grande différence. Qui a la fraulo kai la fraulino mangias? Qui a?
Pourquoi le frère et la sœur mangent?
Pas tout à fait. Fraulo et fraulino. Fraulino, c'est plus commun en français, on dit demoiselle. Et fraulo, damoiseau, n'est pas un mot qu'on emploie très souvent à notre époque. Mais c'est l'équivalent de... C'est le masculin de fraulino. Donc, c'est un jeune homme, quelqu'un qui n'est pas marié. Comme la fraulino est une demoiselle, donc une femme non mariée.
C'est curieux, parce que ça vient de l'allemand Fräulein.
Yes.
Et puis une Fräulein, c'est une mademoiselle.
C'est une demoiselle, oui. Fraulino, donc c'est bien une demoiselle.
Oui, mais qu'on utilise le masculin pour fraulo, ça c'est bizarre.
Donc ça n'existe pas en allemand, hein?
Non,
c'est bien
non,
ça, hein,
non,
tu confirmes,
non,
Dorothée.
Non.
D'accord. Et en français, on disait, il y a quelques siècles, on disait damoiseau. Donc le masculin existait en français.
Ah, d'accord.
Alors répondons à cette question, kial. Kial, c'est un nouveau corrélatif de raison. Donc en disant kial, on interroge sur la raison, donc effectivement, on demande pourquoi. Uh-huh. Réponse.
Ili mangias, char ili malsatas.
Yes, ili malsatas. Ili mangias, ils mangent, char ili malsatas, parce qu'ils ont faim, ou bien car ils ont faim. Char, nous pouvons le traduire par parce que, ou bien tout simplement par car. Char, ça s'écrit C-A-R. Et le verbe malsati, comment est-il construit?
Mais le mal devant...
Qui est le contraire?
Sati, c'est avoir faim.
Oui, donc c'est le contraire de... Que voudrait dire sati? De quel
sati,
mot français c'est
être,
se rapproche?
Rassasié.
Ça, voilà.
Satisfait.
Satisfait, rassasié. Donc, pour dire que l'on a faim... Eh bien, en espéranto, on va dire, c'est le contraire d'être rassasié. Oh. Malsati.
Qui a la knabo kai la knabino trinkas?
Pourquoi le garçon et la jeune fille trinquent?
Boire,
oui, c'est vrai que ça ressemble à trinquer en français, mais trinki, c'est...
Boire.
C'est boire, voilà.
Oui, mais on ne peut pas boire sans trinquer. C'est pas possible.
Ah, je vois que Céline a des principes.
Des principes, très bons principes.
Alors, trinki, c'est vrai que ça fait penser au français trinquer, mais en allemand, boire
trinken.
Se dit trinken. En anglais, boire se dit to drink.
Drink.
To drink. Eh bien, figurez-vous qu'en espéranto, il existe le verbe drinki avec un D.
Et ça veut dire?
Et ça veut dire boire, mais de manière déraisonnable. Voilà, quelqu'un qui... Si vous voulez dire que quelqu'un boit de l'eau ou peut-être du vin, mais d'une manière très raisonnable, li trinkas. Mais si l'on veut dire que quelqu'un boit, sous-entendu d'une manière déraisonnable, c'est li drinkas. Voilà, donc il vaut mieux trinki que drinki.
Oui, parce qu'en néerlandais aussi, c'est le verbe boire, c'est drinken.
Drinken
avec un D.
Oui, et donc c'est plus proche de l'anglais que de l'allemand. Mais il n'y a pas de connotation péjorative ou quelqu'un qui boit en hollandais, il peut boire n'importe quelle boisson, de l'eau par exemple.
Oui, mais quand on met le participe passé du verbe. Drink.
Oui.
Il a trop bu. Donc, alors ça fait ça quoi.
D'accord, nous y revenons.
Voilà.
Alors pourquoi donc ce garçon et cette fille boivent? Réponse.
La geknaboy trinkas char ili soifas.
Ili
soifas.
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 Voilà. Ili soifas. Alors la geknaboy trinkas.
Les jeunes.
Garçons et filles, en fait. Donc là, on peut traduire par les jeunes gens, les enfants, si tu veux. Trinkas, char, ili soifas.
Boivent car ils ont soif.
Voilà, car ils ont soif. Et donc, en espéranto, soifi, ça veut dire avoir soif. Alors, il y a... La plupart du temps, je vous dis, l'espéranto, c'est logique et largement plus logique que le français. Mais là, il y a une petite curiosité. Est-ce que la logique est prise en défaut? Pour dire avoir soif, on dit soifi, alors que pour dire avoir faim, on prend le contraire du verbe sati en disant malsati, en employant le verbe malsati. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est à retenir. Avoir soif, soifi, mais avoir faim, malsati.
Qui a la signoro kai la signorina riposas?
Pourquoi l'homme et la femme se reposent?
Oui, ou bien le monsieur et la dame. Donc, l'homme et la femme, ça serait la viro kai la virino, le monsieur, la signoro, et la femme, la signorino. Donc, pourquoi le monsieur et la dame se reposent? On remarque que riposi, c'est se reposer. En français, c'est un verbe pronominal. En espéranto, c'est un verbe ordinaire, riposi. La gesignoroi riposas, char ili estas tre lazai.
Les gens se reposent car ils sont très fatigués.
Très bien. La gesignoroi, donc c'est le monsieur et la dame. Vous savez que c'est le préfixe ge en espéranto, groupe les deux sexes. Et c'est une façon de dire le monsieur et la dame. En français, on dit parfois « bonjour, monsieur, dame ouais. »,« saluton, gesignoroi », c'est une contraction, là. Mais « gesignoroi », c'est un peu une façon de dire « monsieur, dame », le monsieur et la dame, en un seul mot.
Et comment on dit les gens, alors?
La « homoi ».
Ah oui.
Les gens, donc « homo », c'est un être humain. Ouais. Et quand on veut dire « les gens », on dit « la homoi ». Si on veut dire « l'humanité », on va dire « la homaro ». C'est-à-dire, aro, c'est l'ensemble des personnes, donc l'humanité se dit homaro.
D'accord.
Les gens, on dit généralement homoi. Et il existe également le mot persono, personne. La personoi, qu'on peut traduire par les personnes ou les gens aussi.
La signoro ridas char li estas gaia.
Yes.
Sed la signorino ploras char si estas malgaia.
Très bonne. La signoro ridas, le monsieur rit, char li estas gaia, parce qu'il est gay. Gaia, adjectif, pour dire gay. Sed la signorino ploras, mais la dame pleure, char si estas malgaia. Donc malgaia, c'est le contraire de gay, c'est donc...
Triste.
C'est donc triste, très bien. Non, 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 nous ne sommes pas tristes, car nous nous retrouverons lors de la prochaine émission. À bientôt.
Gisbaldau.